Dans cet épisode, Amel Madibo, membre du CREFO, rencontre Gabriel Ausson, poète, romancier et artiste peintre.
Donc, ce fut vraiment un été atroce parce qu'il y a des enfants avec qui je jouais la veille et du jour au lendemain, ils avaient disparu avec leur famille et on ne pouvait pas nous dire qu'est-ce qu'ils étaient arrivés parce qu'on ne savait pas à ce moment-là qu'ils avaient tous été assassinés au cours de la nuit.
Bienvenue à Quoi de neuf?
Bonjour tout le monde, partout au monde. Ici Amel Madibo, au Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, à OISI de l'Université de Toronto. Dans le cadre de ce podcast de CREFO, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir M. Gabriel Ausson. Bonjour Gabriel.
Bonjour Amel, ça me fait grand plaisir de te revoir.
Mais oui, moi aussi. Et puis, merci de participer à ce podcast. Et Monsieur Ausson, vous êtes, entre autres, vous êtes écrivain, romancier, historien, poète, artiste, peintre. Vous étiez président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Vous êtes également animateur de radio. Hein? Vous animez l'émission hebdomadaire Franco Découverte. Vous êtes également président de l'association Haïti Culture Canada et vous avez travaillé au ministère de l'Éducation. Et donc ça, c'est vraiment c'est des accomplissements très productifs, très importants. Et en plus de ce que j'ai mentionné à propos de votre trajectoire, qu'est-ce que vous aimeriez y ajouter?
Bien, je pense que c'est pas mal complet, Amel, à part que je fais partie de plusieurs conseils d'administration. Dans le sens, je m'implique beaucoup dans la communauté pour redonner un petit peu de qu'est-ce que j'ai récolté au cours des années. Alors, donc ça, c'est tout ce que je pourrais rajouter de plus que qu'est-ce que vous avez déjà dit.
D'accord. Est-ce que vous avez toujours vécu en Ontario?
En Ontario et à l'extérieur, bien, je fais partie d'une association qui s'appelle Trees That Feed. C'est une association qui vient en aide à plusieurs pays dans le monde pour planter des arbres nourriciers. Donc, cette association-là fait des interventions dans les Caraïbes et aussi dans quelques pays d'Afrique.
Ah, d'accord. Et au niveau de votre vécu, donc, est-ce que vous avez toujours vécu en Ontario depuis votre naissance?
Non, je suis né à Port-au-Prince, en Haïti. Je suis arrivé au Canada, à Montréal. J'avais 17 ans, l'année de mes 18 ans, en fait, j'avais 17 ans d'accompli, pour faire mes études. Et je suis resté. Après mes études, j'ai commencé à travailler à Montréal et la compagnie pour laquelle je travaillais était multinationale, dont le siège social se trouvait à Toronto. Alors, j'ai été transféré à Toronto pour le travail et je suis resté depuis ce temps-là.
Qu'est-ce qui s'est passé en Haïti à ce moment-là?
Bien, à ce moment-là, c'était la fin du régime de Duvalier, le père, donc qui était au pouvoir. C'était une dictature assez féroce. C'était difficile pour les gens. L'économie était très dure. Il n'y avait pas d'emploi, etc. Donc, ma mère, avec toute la famille, ma mère avait déménagé d'ailleurs avant avec mes grandes sœurs aux États-Unis. Et le reste des enfants, nous avons suivi par la suite. On est parti plus pour des raisons économiques à ce moment-là, parce qu'on n'était pas trop impliqué dans la politique. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se faisaient exiler à cause de leurs opinions politiques, parce que comme dans toute bonne dictature, les gens n'acceptent pas trop les voies contraires. Donc, il fallait dire comme le gouvernement et dès que les gens disaient l'inverse ou même des fois, c'est un peu comme Duvalier disait que si les gens pensaient le contraire de lui, il serait susceptible d'être arrêté.
D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au Canada à ce moment-là?
Ben, le Canada, c'était Trudeau qui était au pouvoir quand je suis arrivé. Au fait, c'était aussi beaucoup de changements dans la société québécoise quand je suis arrivé, parce que c'était la fin des années 60, début des années 70, avec tout ce qu'on connaissait, la montée du nationalisme québécois, le FLQ et tout ça. Donc, j'ai vécu... en plein la guerre, enfin les, pas la guerre d'octobre, mais les événements d'octobre, les enlèvements de Pierre Laporte et de James Cross, ma mémoire est bonne tout d'un coup, et tout ce qui s'en suivait, c'était vraiment un foisonnement incroyable au Québec, et il y avait ce vent de changement là qui perméait dans toute la population, et surtout comme étudiant, on était en avant des grèves et tout ça là, donc dans ces mouvements un peu socialistes, nationalistes, je me sentais très très fortement une âme de Québécois à cette époque-là. Donc j'avais pas mal épousé, pas nécessairement les felkistes, mais tout ce qui était le nationalisme, de dire, ben oui, OK, au Québec, on veut avoir notre indépendance et tout ça, là.
Ah, d'accord. Et est-ce que vous avez amorcé votre travail, disons, expertise d'écrivain et d'artiste à ce moment-là, ou c'était avant ou après?
Bien, j'ai toujours écrit depuis ma tendre jeunesse. Quand j'étais au secondaire, entre autres, j'étais... Je le suis encore, un lecteur boulimique. Je lisais tout ce qui me tombait sur la main dans les bibliothèques de l'école. Ils nous donnaient le loisir de le faire. J'ai commencé à écrire des poèmes beaucoup plus pour exprimer un peu mes états d'âme d'adolescent. Tu sais, on vit des changements, des turbulences, et on comprend pas toujours ce que c'était. Donc c'était quand d'autres tenaient des cahiers de mémoire, moi je tenais des cahiers d'écriture. Et la peinture a commencé un petit peu plus jeune encore, parce que mes parents n'avaient pas toujours, tu sais, le Père Noël, il passait pas selon les vouloirs des enfants, il passait selon qu'est-ce que la mère ou les parents pouvaient payer, dans mon cas ma mère et ma grande sœur. Donc à chaque année je recevais un jeu d'aquarelle avec des livres à colorier. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai débuté par copier des cartes postales, des photos que je voyais dans des revues, des trucs de même. Donc, c'est un peu en parallèle que s'est développé mon côté peintre, si tu veux. Et ce n'est que très, très, très plus tard que quand je suis arrivé à Toronto, j'ai pu finalement publier mon premier recueil de poésie. On était là en 1995.
Oh, d'accord, très intéressant. Et donc, ça a débouché sur des résultats très fructueux. Entre autres, votre livre « Le jour se lèvera » est lauréat du prix Alain Thomas du Salon du livre de Toronto, n'est-ce pas, édition 2021. Et félicitations d'abord. Et quel est le sujet de ce livre?
Et c'est un roman qui rappelle l'histoire de 13 jeunes pour la plupart, dont les parents avaient été exilés aux États-Unis. Certains étaient nés en Haïti, certains étaient nés aux États-Unis. Et ces jeunes-là étaient dans un mouvement qui s'appelait Jeunes Haïti, et qui ont décidé, il y avait un bras armé de ce mouvement-là. Donc, ils ont décidé de quitter Miami pour aller en Haïti essayer de renverser le régime de Duvalier. Là, on est... Ils ont commencé à se mettre ensemble fin 63. Et à l'été de 1964, ils ont décidé de quitter Miami dans un bateau. Ils avaient été entraînés, ce qu'on nous avait dit dans le temps, par la CIA, qui aidait aussi les exilés cubains, d'ailleurs. C'était avec ils s'entraînaient avec un groupe d'exilés cubains pour partir puis aller faire la révolution là-bas. On ne sait pas trop où ce qu'ils ont trouvé les armes, est-ce que les armes leur avaient été fournies, en tout cas, peu importe. Donc, ils sont arrivés dans le sud de d'Haïti, dans la Grande Anse, et de là, ben, ils ont pris le maquis. Ils pensaient tenir un petit peu, pendant un mois, parce qu'ils disaient que, ben, on va y aller, on va aller faire la révolution, on va soulever les gens. Puis, ils pensaient qu'à la fin de l'été, ils retourneraient à leur vie normale aux États-Unis parce que ils auraient eu un peu, comme ça s'était passé à Cuba, un souffle où le peuple les suivrait et se soulèverait puis renverser le régime de Duvalier. Finalement, ils ont duré ça presque 3 mois dans le maquis. 11 de leurs camarades ont péri lors des rencontres avec l'armée haïtienne et les tontons Makoute dans le temps, qui étaient un petit peu les volontaires, entre guillemets, du régime de Duvalier. Et les deux qui ont été capturés vivants ont été fusillés sur la place publique après avoir été torturés par le régime pour essayer de leur faire parler, c'est qui était leur complice, leur ami dans le pays, etc. Amal, au fur et à mesure que ces jeunes-là étaient arrêtés ou morts au combat, le régime de Duvalier avait éliminé toutes ces familles-là systématiquement, un après l'autre, des bébés à la naissance jusqu'aux grands-parents. Donc il y a eu des familles entières qui ont été assassinées au cours de la nuit. Et j'ai pu être témoin de ces exactions parce que à l'été de 64, quand ça se passait, je passais mes vacances dans une ville qui s'appelle Jérémy, qui est dans le sud de l'île, où la plupart de ces jeunes-là étaient originaires. Donc, ce fut vraiment un été atroce. Parce qu'il y a des enfants avec qui je jouais la veille et du jour au lendemain, ils avaient disparu avec leur famille et on pouvait pas nous dire qu'est-ce qu'ils étaient arrivés parce que on savait pas à ce moment-là qu'ils avaient tous été assassinés au cours de la nuit. C'était une histoire assez poignante et c'est beaucoup plus tard lors du 20e anniversaire, je pense, ou 30e anniversaire même de cet événement, que j'ai eu vent d'un programme de devoir de mémoire qui avait été fait pour parler de ces jeunes-là. Puis là, j'ai dit, tiens, mais je connais cette histoire-là. Donc, c'est un peu ça qui m'a incité à écrire le livre, parce que quand j'ai essayé de faire de la recherche pour trouver qu'est-ce qui était arrivé avec ces jeunes-là, ben, il n'y avait pas grand-chose qui avait transpiré ou qui avait fait l'objet, si tu veux, de recherche ou d'écriture à ce moment-là.
D'accord. Donc, c'est une histoire très importante, hein, en fait, de jeunes révoltés. Et ça nous rappelle que la révolution des jeunesses, hein, n'est pas vraiment une chose contemporaine, mais ça a amorcé, ça fait longtemps, et maintenant, en fait, oui, ça continue, n'est-ce pas? Que ce soit au Soudan où il y a eu une révolution de jeunesse très importante, ou à Hong Kong, par exemple, entre autres. Et donc, quelle est la recherche? Quelle était votre méthodologie de recherche pour ce livre? Là, vous avez déjà mentionné les côtés de votre mémoire et le fait que vous étiez là, vous avez vraiment vu les vécu en fait hein, une partie, au moins une partie du châtiment là que les jeunes de les familles ont subi. Vous avez fait autre recherche. Quelle est l'autre recherche?
J'ai pu avoir quelques documents du SIDICA. C'est un regroupement qui est à Montréal, qui a beaucoup de documentation. C'est un centre de documentation, justement, sur Haïti. Et aussi grâce à l'Internet où les gens mettent des petites choses comme ça. Donc, j'ai pu ramasser pas mal de bribes de faits réels qui se sont passés dans l'arrière-scène qu'on ne savait pas. J'ai pu mettre la main sur un manifeste, entre autres, qu'avait publié le groupe de Jeunes Haïti. Donc, je savais leur nom, je savais qui faisait partie de ce regroupement-là. Parce que au départ, il y en avait à peu près 200, 250 jeunes qui faisaient partie de ce groupe-là. Même si c'est une petite partie de du regroupement qui avait décidé de s'armer pour aller faire la révolution, les autres le faisaient de façon épistolaire. Il y avait un journal qui était publié où ils racontaient tout ce qui se passait et les méfaits que commettait le régime de Duvalier à ce moment-là.
Ah, d'accord. Et aussi le courage, même le militantisme, l'activisme de ces jeunes m'ont fait penser à l'activisme de Che Guevara.
Absolument.
Qui, oui, voyage en mer, c'est ça, armé, ainsi de suite, et puis le but dans le but est la libération de son peuple. Et je sais que vous avez donné une conférence à l'Alliance française de Toronto, une conférence sur une recherche que vous avez menée au sujet de Suzanne Louverture. Et donc, parlez-nous de cette recherche, s'il vous plaît.
Oui, c'est une période assez épique, je dois dire que cette recherche qui m'a pris 2 ans et qui m'a emmené de Brest à Bayonne, en passant par Aix-en-Provence, Paris, Astaffort et Agen, pour essayer de découvrir justement l'histoire de Suzanne Louverture. Suzanne était la femme de Toussaint Louverture, les deux étaient esclaves sur, ou je devrais dire en état d'esclavage, sur la plantation Breda. C'est une plantation qui est au nord de l'île, pas loin du Cap Haïtien. Et c'est là qu'ils se sont connus. Et Toussaint, vers les années 1792-93, s'est enrôlé, si je peux dire ainsi, comme médecin dans l'armée indigène qui commençait à fomenter une révolution contre l'armée française à ce moment-là. Donc Toussaint a gravi les échelons dans l'armée pendant que Suzanne, elle, s'occupait de sa maison. Donc ils avaient une propriété où ils avaient eux aussi, même s'ils étaient des anciens esclaves, ils avaient des esclaves qui travaillaient aussi pour eux. Donc quand Toussaint, lui, était parti faire la guerre, soit contre les Espagnols, soit contre les Anglais à ce moment-là pour les chasser de l'île, donc c'est Suzanne qui s'occupait de ça. Mais comme souvent dans les révolutions, même si les femmes ont eu une place quand même assez importante dans la révolution haïtienne, on a très peu entendu parler d'eux. L'histoire de Suzanne m'est tombée dessus un petit peu comme par hasard. J'étais à un mariage dans la ville de Agen et coïncidence, une des personnes qui était dans l'assistance me dit « Ah, Gabriel, on m'a dit que vous veniez d'Haïti. Saviez-vous que nous avions accueilli une dame qui est venue de Saint-Domingue et qui a vécu à Agen jusqu'à sa mort ?» Et là, je lui ai dit, je ne savais pas du tout. Puis là, je lui ai demandé de qui il s'agit. Elle m'a dit, bon, mais c'est une certaine Madame Louverture. Et j'ai dit, ça ne se peut pas que ça soit la femme de Toussaint Louverture. Parce que dans l'histoire que nous avons appris, je n'ai jamais entendu parler que Toussaint avait été déporté avec toute sa famille. Donc, parce qu'on a toujours parlé de Toussaint, tout le monde connaît Toussaint Louverture, on connaît ses exploits, etc. Mais on savait pas qu'en arrière de Toussaint, il y avait cette grande dame qui était Suzanne. Donc, je me suis mis en tête de découvrir justement son parcours, qu'est-ce qu'elle avait fait, etc. Pour se rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses décrites sur Suzanne. Elle a laissé très peu de documents derrière elle. Elle a laissé quelques lettres qu'elle avait écrites à son mari ou qu'elle avait envoyées aux autorités lors de sa vie à Genèse. Par contre, dans les archives, j'ai pu quand même retracer son parcours depuis qu'elle a quitté Saint-Domingue. Parce qu'à Saint-Domingue même, j'ai trouvé à peu près pas grand-chose sur Suzanne. Mais dans les registres d'esclaves, j'ai pu retrouver dans les recensements qui faisaient qu'elle habitait effectivement dans cette plantation-là, j'ai pu établir par déduction l'année à peu près exacte de sa naissance. Mais aussi, il y a toujours les Français. On a beau dire qu'ils sont très procéduriaux, ils sont très bons pour garder les écrits. Donc, on avait à chaque fois qu'ils s'embarquaient sur le bateau, donc on avait le manifeste qui disait bon voilà, on a embarqué aujourd'hui un tel. Donc, j'ai pu retrouver ces documents-là qui m'ont dit bien ok voilà, telle journée, telle date, Suzanne, sa famille ont embarqué sur telle frégate, ensuite transbordé sur tel vaisseau qui les a amenés à Brest. Donc j'ai pu retracer ces choses-là. Évidemment, c'est un roman historique. Les faits sont vrais, les dates sont vraies, mais comme il y a beaucoup d'espace entre ça qu'on ne connaît pas, donc j'ai pu combler un peu à ma guise, inventer une partie de l'histoire finalement pour romancer les manques, si tu veux, que les documents historiques ne nous donnent pas nécessairement. Donc j'ai pu de Brest où ils sont arrivés suivre, parce que là ils ont été transbordés jusqu'à Bayonne. Donc je suis allé à Bayonne aux archives et à la médiathèque là-bas. Donc j'ai retrouvé des documents qui relataient l'arrivée de Suzanne, entre autres les journaux de l'époque qui ont parlé de son arrivée, de cette famille-là qui sont arrivés en France. Dans la ville plutôt, devrait dire, ben en France. Et par la suite, bon, quand ils ont été transférés à Agen, donc là, il y a encore là toute cette documentation-là qui les ont suivis. Donc là, les archives ont très bien documenté, si tu veux, leur voyage, leur départ, leur translation d'une place à l'autre. Donc j'ai pu retrouver aussi les maisons où ils ont habité, donc j'ai pu marcher dans les rues où Suzanne a vécu, aller dans les églises qu'elle a fréquentées et tout ça. Donc ça m'a permis de mettre ensemble un petit peu tous les le travail de l'historien un peu à décortiquer, souvent pas seulement qui est écrit, mais c'est souvent les non-dits qu'il faut qu'on cherche. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé plus que ça de Suzanne, une ville, imaginez une famille de Noirs qui arrive à Agen en 1804, la ville ne connaît à peu près pas de population métisse, il y a quelques métisses qui sont arrivés de soit de la Martinique, soit de la Guadeloupe et un peu de Saint-Domingue, mais il y a très peu de Noirs dans la ville. Et ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi qu'il n'y a pas eu plus de documentation que ça, plus de traces de son passage dans la ville comme telle.
Oui, ça c'est vraiment fascinant. Et j'ai lu dans les médias francophones que vous êtes en train d'entamer des démarches pour ériger une statue justement de Suzanne Louverture. Et c'est dans le cadre de votre travail comme votre rôle, comme président de l'association Haïti Culture Canada. Donc, qu'est-ce que cette association Haïti Culture Canada et quelles sont les démarches que vous entamez justement pour ériger une statue de Suzanne Louverture et pourquoi? Et où est-ce que la statue sera érigée?
Okay, bonne question. En fait, l'association, c'est Haïti Future.
Ah, d'accord.
Haïti Future, c'est une association franco-haïtienne qui a débuté dans les années, à la fin des années 80, par deux personnes, une d'origine haïtienne et un Français, qui habite dans la région parisienne. Et depuis quelques années, l'association s'est agrandie. Maintenant, on compte 7 associations Haïti Futur un peu à travers le monde. Donc, il y en a en Haïti, au Canada, qu'on a dit, aux États-Unis, au Bénin, en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc, maintenant, là, ça, et en République dominicaine aussi. Donc, ça s'est agrandi pas mal avec les années. Donc, l'objectif principal d'Haïti Futur, c'est, un, de promouvoir l'éducation en Haïti, aussi d'aider les gens à trouver des façons de économiques de créer des emplois. Et l'autre volet, c'est la culture. Donc, tout le projet autour de Suzanne, c'est l'aspect culturel, de faire connaître la culture haïtienne. Donc, c'est là-dessus que je me suis inspiré pour le projet de Suzanne. Fait qu'au départ, quand j'ai découvert la vie de Suzanne à Agen, et aussi le fait qu'un de ses enfants avait déménagé dans un petit village au sud d'Agen qui s'appelle Astafor. Donc, je me suis rendu à Astafor et j'ai retracé la vie de ce jeune-là. Qui va faire l'objet d'un livre d'ailleurs un petit peu plus tard avec les autres recherches que j'ai fait. La première étape qu'on a fait, c'était de faire mettre des plaques commémoratives sur les maisons où ont habité cette famille-là à Astafor. Et j'ai l'intention de faire la même chose sur les maisons où Suzanne a habité dans la ville d'Agen. Nous essayons d'avoir les autorisations des propriétaires pour pouvoir mettre ces plaques-là. Donc, comme Suzanne a vécu à Agen et qu'elle est morte là-bas, c'est pour ça qu'une association locale à laquelle je me suis associé, on a décidé de d'ériger une statue de Suzanne dans la ville. Mais la ville d'Agen dit « Oh, ben Suzanne, il n'y a personne qui la connaît. Alors, on devrait d'abord commencer par mettre une statue de Toussaint Louverture pour avoir un petit peu plus de prestige. » Donc, en premier lieu, il y aura une statue de Toussaint qui va être installée au mois de mai de cette année dans la ville d'Agen. Mais nous, on voulait plutôt reconnaître le travail de Suzanne et aussi faire sortir de l'oubli cette dame, parce qu'elle a quand même contribué beaucoup à la gloire de Toussaint, parce que si elle n'était pas là pour s'occuper de tout ce que de toutes les affaires de Toussaint pendant que Toussaint était d'abord gouverneur de l'île, avant il était général de l'armée française et tout ça. Donc si Suzanne n'était pas là pour s'occuper de ça, tout ça ne serait pas devenu l'homme qu'il était. Alors j'ai voulu faire sortir Suzanne de l'oubli, puis lui redonner un petit peu sa place dans l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire une campagne de levée de fonds pour d'abord créer la statue qui sera faite par un jeune plasticien d'origine haïtienne qui présentement réside dans la région de Bordeaux. Donc la statue va être créée et coulée en bronze dans une fonderie là-bas. Donc là, mais ça coûte quand même cher. C'est au-delà de $100,000 qu'il faut qu'on ramasse. Donc tous les sous que les gens peuvent nous donner, on a créé un site internet pour Suzanne Louverture. Donc c'est www.suzanneouverture.com où les gens peuvent aller. Donc j'essaie de garder ce site-là actif, à mettre un peu des histoires de Suzanne. Donc les gens peuvent faire des dons sur ce site-là. Il y a plusieurs façons de donner.
Oui, très vraiment fascinant. Est-ce que vous allez écrire un livre sur Suzanne Louverture?
Oui, en fait, le livre est à toute fin pratique terminé. Je suis à l'étape finale ou presque de révision du manuscrit. Et le livre devrait sortir un peu plus tard cette année. On n'a pas de date précise encore. Donc, le livre va retracer justement un peu, pas un peu, il va retracer la vie de Suzanne sur la plantation à Saint-Domingue. jusqu'à son arrivée en France, ou les années où elle a, qu'elle a passé en France, de Brest à Bayonne, de Bayonne à Agen, et Agen où elle a vécu jusqu'à sa mort en 1816. Donc ça, et ce livre finalement va être une trilogie, parce que en plus de parler de Suzanne elle-même, j'ai deux autres livres que je travaille en parallèle qui vont parler des deux enfants de Suzanne. Et de le, j'ai aussi pu, au travers des recherches, à mal retrouver la progéniture de Placide Louverture, donc le fils de Suzanne. Donc il y a eu une descendance là-bas. Et quand on a posé les plaques à Stafford, j'ai eu le immense plaisir de rencontrer la quatrième ou cinquième génération de ces gens-là, qui au cours des années se sont à peu près blanchis, parce qu'aujourd'hui il y a plus de traces du tout de couleur dans cette famille-là. Il y a juste une des sœurs qui a peut-être une des enfants, ça veut dire qui a peut-être des cheveux crépus un peu, puis un nez quelque peu négroïde, mais sinon c'est rendu des blonds aux yeux bleus là, les descendants de la famille. Il faut dire que Placide a épousé une fille de la noblesse, c'était une blanche, donc les enfants après se sont comme dilués pas mal avec les années dans la durée.
D'accord, mais ils ont peut-être quand même gardé le lien avec Haïti, au moins l'histoire ou la culture haïtienne.
Ouais, tout à fait, parce que tu vois, quand on a rencontré ces gens-là, il y a une des personnes qui a dit que ça fait 50 ans qu'on attend ce moment-ci. Donc, eux autres, ils savaient, ils ont trouvé des documents dans les coffres, dans le grenier chez la grand-mère qui avait gardé ça. Donc, il y avait les photos de leur grand-mère d'abord et aussi des tantes au cours des années. Donc on a eu le plaisir de pouvoir voir ça, puis des documents aussi qu'ils avaient précieusement conservé, une chance, parce que souvent les gens disent bon, ça n'a pas de valeur, on les jette. Donc on a pu au moins les consulter. Oui,
toujours très fascinant. Et donc c'est l'association Haïti Futur, n'est-ce pas? C'est une association diasporique. Et vous êtes également artiste peintre. Et est-ce que votre peinture correspond à certaines thématiques, certains sujets, ou c'est juste une création artistique qui se crée comme ça, momentanément?
Je pense que c'est un peu des deux. J'ai quelques tableaux que je dirais qui seraient peut-être un peu inspiré du folklore haïtien, entre autres, surtout parce qu'il y a un moment donné, je voulais faire une exposition, et bon, en fait, je voulais faire une exposition. Une exposition m'avait été proposée sous le thème du vaudou haïtien. Donc là, je me suis attelé pendant quelques mois à créer une série de tableaux qui parlait un petit peu, ou qui est inspiré du vaudou haïtien. Je pense que c'est à peu près la seule fois que j'ai fait une incursion, si tu veux, dans une peinture que je pourrais dire, entre guillemets, plus haïtienne. Par contre, ce que je vais remarquer, c'est que dans mes peintures, j'en ai deux, que vous peut-être voyez peut-être en arrière de moi, qui sont plutôt coloré. J'utilise beaucoup de couleurs vives qui me rappellent peut-être le soleil d'Haïti, qui me rappellent un peu la chaleur tropicale, mais ça s'arrête là. Ma peinture, je dirais mon inspiration, grandement influencée par plus le Canada. Donc j'ai fait beaucoup de paysages, beaucoup de scènes d'hiver, des trucs comme ça. Et dans les dernières années, j'ai bifurqué pour aller plus vers l'abstrait. Donc, je fais beaucoup plus l'utilisation de couleurs, de formes, beaucoup de formes géométriques. J'aime beaucoup ça. J'ai toujours aimé un peu les formes physiques. Tu sais, quand on suivait des cours de physique, il y avait des formes qui m'attiraient beaucoup. Donc j'ai utilisé beaucoup ça dans mes tableaux au cours des années.
Et donc vous êtes également animateur de radio, n'est-ce pas, de l'émission hebdomadaire Franco Découverte. Qu'est-ce que cette émission?
Mais c'est une émission d'abord de musique. Ce que je fais, c'est que j'essaie de découvrir de la musique francophone de partout à travers le monde, de tous les pays francophones. Et c'est de faire connaître des artistes que des gens n'ont jamais entendu parler ici. Donc je fouille un peu sur l'Internet pour voir dans les différents pays africains les gens qui chantent en français ou qui chantent des chansons des fois qui a un mélange dans leur langue maternelle et aussi avec un petit peu de français. Donc des pays, c'est de la musique de pays francophones. Donc j'ai la Martinique, Guadeloupe évidemment. J'ai fait une émission sur les artistes de La Réunion parce que j'ai eu le plaisir d'aller faire une conférence là-bas à l'île de La Réunion au mois d'octobre de il y a 2 ans déjà de passé. Donc ça c'est un peu ça, c'est aussi de faire redécouvrir des fois de la musique francophone qu'on a oublié, que ce soit du Québec, que ce soit de la France, d'Haïti ou d'ailleurs. Donc c'est les vendredis soirs à 19h à 20h sur les ondes de Choc FM 105.1 à Toronto. Et c'est disponible aussi sur l'Internet, donc les gens peuvent écouter partout à travers la planète.
Donc, toujours dans le cadre de votre création artistique, vous étiez président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Ça, c'était quand et qu'est-ce que cette association?
Mais c'est une association qui est vouée à la défense des droits des auteurs. Et aussi de les promouvoir, donc c'est le grand les grands créneaux si tu veux de l'association entre autres, mais aussi de mettre de l'avant l'importance de l'écriture francophone en Ontario et d'aider à la diffusion de cette écriture là, de cette littérature là aussi devrais-je dire, non seulement dans les écoles, les universités de l'Ontario, mais aussi de le faire connaître à travers le Canada français, de dire aussi que ben on a une littérature foisonnante ici en Ontario et les auteurs méritent justement d'être connus et d'être reconnus. On a de très très bons écrivains, pas parce que je suis l'un d'eux qui dit ça, mais on a de très très bons écrivains en Ontario qui malheureusement bien ils ne sortent pas vraiment du lot parce que bon on est très peu connu au Québec par quelques incursions de temps à autre, comme invité dans les écoles. Je suis invité des fois à parler de mes livres dans des écoles, mais sinon je ne crois pas qu'on est très connu. On n'a pas assez de visibilité au Québec. Alors, ben, ceci dit, c'est un peu ça le rôle de l'AOF, c'est de promouvoir les auteurs franco-ontariens et de défendre surtout aussi les intérêts des auteurs franco-ontariens, de favoriser leur l'utilisation de ces livres-là, qu'ils soient étudiés, que ces écrivains-là soient étudiés dans les écoles de langue française ou même dans les écoles anglophones, dans les cours, dans les programmes d'immersion dans les écoles de langue anglaise.
Donc la peinture, l'écriture et l'art de manière générale sont des outils éducatifs, donc d'éducation. Et à ce sujet, je vois que vous avez travaillé au ministère de l'Éducation. Est-ce que c'était le ministère de l'Éducation de l'Ontario?
Oui, c'est le ministère de l'Éducation d'Éducation de l'Ontario. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur de l'éducation en langue française. Donc notre travail, c'était justement d'épauler les conseils scolaires pour leur donner des outils pour pouvoir avoir des écoles, développer le curriculum, former les enseignants et tout ce qui va avec. J'étais en gros pendant quelques années aussi responsable des étudiants étrangers qui arrivaient à ce moment-là dans les écoles de langue française, de s'assurer justement qu'il y a une certaine représentativité au niveau du corps professoral pour que les étudiants puissent avoir des modèles à suivre. Parce que ben, surtout depuis, je dirais, les 15-20 dernières années, une grosse partie de l'éducation en langue française a pu survivre justement grâce à l'apport des immigrants qui arrivaient d'Afrique, d'Haïti pour la plupart. Donc ça a été un peu aussi mon travail dans l'éducation en langue française. Vers la fin de, j'ai travaillé surtout pour le programme Canada-Ontario. Donc c'est un programme où on reçoit de l'argent du gouvernement fédéral à qui il faut qu'il retourne dans les écoles et dans les conseils scolaires. Donc moi je gérais ce programme-là dans les 4-5 dernières années.
Donc cela étant, votre engagement dans la francophonie est vraiment multidisciplinaire. N'est-ce pas? C'est éducationnel, c'est associatif, c'est artistique, c'est historique et ainsi de suite. Donc, de par votre engagement, cet engagement très riche et enrichissant, qu'est-ce que représente pour vous la francophonie? Ou quelle est votre image sur la francophonie?
Et c'est, la francophonie, ce sont mes racines au départ. Donc, je veux et j'ai toujours eu à cœur de garder le fait français dans ma famille. Alors que quand je suis arrivé en Ontario en 1986 déjà, ça fait quelques années, où mes amis qui étaient au préalable partis du Québec et que j'ai rencontré ici, qui me disent « ben nous, on parle plus français ». Ben, je dis « comment peux-tu me dire que vous êtes né au Québec, tu as grandi au Québec et tout d'un coup tu dis « je parle plus français » puis même qu'ils étaient rendus à angliciser leur nom pour ne plus avoir cette consonance francophone. Moi, j'ai fait un choix politique, de mettre mes enfants à l'école de langue française dès qu'on est arrivé en Ontario, et de toujours parler français avec eux à la maison, même quand les enfants me disaient qu'on ne comprend pas le français. Nous, on disait l'inverse, on ne parle pas l'anglais, si vous ne parlez pas en français, nous, on ne peut pas vous répondre. Ça a pris quelques années, ça a duré quand même un petit bout de temps jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'on est, qu'on savait parler, oui. Qu'on savait parler anglais. Mais n'empêche que même que devenu adolescent ou jeune adulte, bien on même s'ils nous parlaient en anglais, on répondait toujours en français. Donc pour moi le français c'est la base. Puis j'ai toujours eu à cœur de défendre la langue française ici, défendre le bon parler aussi français, parce que c'est facile de se laisser influencer par la langue majoritaire ici et d'avoir une certaine, je dirais, un certain vocabulaire un peu bâtard, si je peux utiliser ce mot-là, où à chaque deux mots français, on va rajouter un mot anglais. Je me suis encore aujourd'hui forcé de trouver le mot juste pour parler. Quand on a des nouvelles locutions qui arrivent, j'essaie de trouver est-ce qu'il existe un pendant français à ce mot-là, et à ce moment-là d'utiliser ce mot-là plutôt que d'utiliser l'anglicisme. Alors, donc j'ai toujours eu à cœur cette défense-là. Pour moi, ça fait partie de mes tripes, le français et mon apport aussi au niveau des, que ce soit dans les écoles ou des institutions francophones à Toronto. J'ai aussi fait du développement organisationnel à Mal pendant quelques années. Je travaillais avec les organismes à but non lucratif qui arrivaient ici pour les aider à s'implanter un peu au niveau des affaires, là, si tu veux, dans la communauté, de consolider aussi leur base associative à ce moment-là. Ouais. Alors, ça, c'est un peu ça, mon implication dans la communauté. Puis, je continue de donner à travers la radio, à travers les conférences, à travers les rencontres, à travers les salons du livre aussi, le Salon du livre de Toronto qui continue de promouvoir la littérature ontarienne et canadienne française aussi.
Vous donnez beaucoup, c'est vraiment apprécié. Donc vous-même, comment est-ce que vous vous identifiez?
Bonne question. J'ai toujours de la difficulté avec cette question d'identité multiple. Quand j'étais à Montréal, j'étais un vrai Montréalais. J'étais un vrai Québécois, puis je pense que les gens me disaient toujours, oui, toi, Gabriel, on peut pas dire que t'es un Haïtien parce que tu parles pas comme les Haïtiens, tu penses comme nous, tu parles comme nous, etc. Mais je dis, je ne suis pas plus un Québécois pour autant, parce que mes origines sont pas d'ici. Par contre, j'ai toujours adopté, si tu veux, le pays où je suis. Quand je suis arrivé en Ontario, ben je suis devenu franco-ontarien par la force des choses, parce que au départ, je dois pas dire que quand je suis arrivé, mes premières années, j'étais plus immersé dans le milieu anglophone. La compagnie pour laquelle je travaillais, c'est une compagnie américaine, je travaillais pratiquement 80% en anglais. Comme je parlais français, j'avais aussi le dossier du Québec. Mais c'était seulement quand j'allais au Québec que je parlais français, sinon tout le reste de mes interventions se faisait en anglais. Donc aujourd'hui, je me sens un peu haïtien, un peu français de par mes origines parentales, puis un peu franco-ontarien. Donc je parle souvent d'identité dans ma poésie. Pas autant dans mes livres, mais le fait que c'est toutes ces identités-là finalement qui m'ont créé, qui font de moi l'être que je suis. Donc, je ne renie ni mon identité haïtienne, ni mon identité canadienne. Donc, je les combine et j'en tire le meilleur parti de tout ça.
Et Gabriel Osson, on aimerait que vous partagiez avec nous un poème de votre choix, s'il vous plaît.
Et vu qu'on parlait d'identité tout à l'heure, j'ai choisi justement un poème tiré de mon recueil d'ici et d'ailleurs. On parlait tout à l'heure de d'identité multiple, des endroits où on vient, donc qui nous marquent. Et ça se lit ainsi. Je suis de la mouvance, fils de la lune et de la mer. Je suis d'Afrique et d'Haïti. Je suis issu de l'errance en des temps de transhumance inhumaine, ces temps où l'humanité de certains était questionnée, les ramenant au rang de bêtes. Fils d'esclaves, né libre. Perdu dans la diaspora, je suis un ethno quelque chose, afro-ci et afro-ça. Je suis fils du soleil et de la terre. J'ai mes racines aux Antilles et mes branches tentaculaires s'étirent au nord de l'Amérique, en Europe, en Afrique. Pas assez haïtien pour les Haïtiens, trop étrange pour les autres. Je suis issu de l'errance, vagabond aux pieds nus, gitan d'avant le temps. Je suis celui qui n'est pas d'ici et point d'ailleurs. Je suis d'Afrique et de France, d'Haïti et du Canada, pris entre deux cultures qui ne semblent jamais vouloir tout à fait de moi, le monde et ma patrie.
C'est très beau. Merci beaucoup à Gabriel Osson pour partager vos expertises, votre art, votre écriture, votre poésie avec nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Amal. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce petit moment avec toi.
Merci beaucoup.
Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise@utoronto.ca.